affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. Vivam, je vivrai, la bouche du peuple me lira, j'irai connu à travers les siècles, et s'il y a quelque chose de vrai dans les oracles d'un poète, je vivrai. C'est ainsi que le poète latin Ovide concluait ses métamorphoses. À 20 siècles de distance, nous pouvons affirmer que cette prophétie s'est réalisée. Ovide a bien atteint la postérité, mais c'est une postérité amoindrie, paradoxale, déformée. En effet, son œuvre la plus lue aujourd'hui est plutôt L'Art d'aimer, un recueil charmant, élégant, séduisant, mais que lui-même considérait comme une œuvre de jeunesse, légère et futile, surtout au regard des métamorphoses, dans lesquelles il ambitionnait rien moins que mettre en vers la totalité de l'histoire du monde. Peut-être faut-il alors rendre à Ovide sa véritable dimension, son ampleur. C'est un projet que, bien sûr, nous n'aurions pas osé entreprendre seuls. Mais justement, nous ne serons pas seuls aujourd'hui. Nous avons en effet la joie et l'honneur de recevoir Xavier Darcos, de l'Académie française, ancien ministre, chancelier de l'Institut de France, mais surtout amoureux des lettres latines, auxquelles il a consacré déjà de nombreux ouvrages, et qui a récemment publié un livre consacré à Ovide et son œuvre, Ovide, désiré, renaître, survivre, tout un programme publié chez Fayard. Monsieur, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Notre première question portera sur l'homme lui-même, parce que finalement, Ovide, c'est un poète sensible, incarné, alors peut-être faut-il non pas le contextualiser, comme on dit vilainement aujourd'hui, mais le resituer dans son temps, de l'époque de son vivant.
Oui, c'est quelqu'un qu'on peut décrire de manière biographique quasiment, parce qu'il s'est beaucoup engagé dans son œuvre. C'est beaucoup plus difficile à faire avec d'autres auteurs, mais avec Ovide, c'est possible. Et en décrivant sa situation historique, sa place dans le temps, on découvre aussi un peu l'explication des difficultés qu'il a rencontrées. Ovide, donc, il naît au moment pratiquement de l'assassinat de César, en 43 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire au moment où la République va s'arrêter, et où petit à petit va s'organiser le pouvoir personnel, où l'Empire va s'installer. Donc c'est une génération qui vient après celle de Virgile. Virgile a 27 ans lorsque Ovide naît, Horace a une vingtaine d'années aussi. C'est la génération d'après, la génération qui n'aura pas connu les guerres civiles ou pas vraiment, et la génération qui ne voit plus de nécessité de glorifier l'histoire romaine. C'est fait. Voilà, l'Énéide, c'est fait, les Odes d'Horace, c'est fait. Maintenant, on peut parler un peu d'autre chose et il faut profiter de la vie. Donc, c'est la première partie de sa vie, au fond. Elle s'explique par cette génération d'après, si je puis dire, qui profite de la paix retrouvée, du début du Principat, car si les Romains ont si facilement accepté l'installation du pouvoir personnel d'Auguste, qui va aboutir à un pouvoir absolu, à une monarchie totale, c'est parce qu'ils étaient satisfaits que les guerres civiles aient cessé et qu'une sorte de prospérité, de développement économique, esthétique, de facilité de vie s'installe. Et c'est dans cette première partie que Ovide se sent des ailes et qu'il écrit ses œuvres que vous évoquiez dans votre présentation, à savoir des œuvres assez légères, L'Art d'aimer, Les remèdes à l'amour, qui sont des livres un peu coquins, des recettes érotiques, si je puis dire, des récits amoureux, mais qui s'inscrivent dans la société romaine pacifiée et jouisseuse. Sauf que peut-être Ovide n'a pas compris qu'il ne fallait pas trop en abuser, parce que à partir du moment où s'installe un fort pouvoir personnel, Auguste change un peu de comportement. Il se fait moralisateur, il veut restaurer la religion antique, il se méfie des cultes importés, des cultes orientaux, qui sont très importants à cette époque-là, à Rome, les mystiques mystiques orientales, le culte de Mithra, le culte d'Isis, les cercles néo-pythagoriciens, tout ça, ça ne lui plaît guère, ce n'est pas son genre. Et au fond, il trouve que l'esprit libertin de d'Ovide contrevient un peu à cette volonté moralisatrice, à refaire en quelque sorte l'histoire de l'Empire, à la reconstituer. L'Énéide racontait comment Auguste était en quelque sorte le descendant direct du fils d'aîné, Iule, Gaius Iulus Caesar, c'est la famille des Julii, et comment, au fond, il incarnait la nouvelle Troie qui était Rome. Ovide ne parle pas beaucoup de ça, il parle plutôt de courir après les filles dans des spectacles, de s'amuser avec des théâtreuses, de séduire des femmes mariées, d'aller aux courses pour repérer les jolies filles et les draguer. Bref, tout ça est un peu décalé. Peut-être explique-t-on ainsi la deuxième partie de la vie d'Ovide, c'est-à-dire un moment où il se rend compte qu'il faut rectifier le tir, il se met à écrire des choses très sérieuses, les fastes, dans une sorte de calendrier des fêtes romaines dont il essaie d'expliquer l'origine, et surtout, comme vous l'avez dit, Monsieur Blanc, les métamorphoses, un immense projet littéraire, un des plus incroyables qu'on puisse connaître, puisqu'il s'agit de raconter la totalité de l'histoire de l'humanité à travers une succession de métamorphoses. Et au moment où tout ceci se met en place, comme si c'était trop tard, Ovide est brutalement exilé, chassé de Rome du jour au lendemain, obligé de partir aux confins de l'Empire. Et là, une dernière version de sa vie, dernier versant de sa vie, sans qu'on sache d'ailleurs exactement pourquoi il est parti, il va se retrouver perdu en mer Noire, dans l'actuelle Roumanie, désespéré, très loin de ce qu'il avait aimé, se retrouvant dans des endroits habités par des personnages hirsutes, dans des endroits qui sont souvent victimes d'agressions venues de nomades. Et dans un pays où il fait très froid, en tous les cas c'est ce qu'il dit très souvent, et l'obsession de l'hiver et de la neige est très frappante dans ses œuvres d'exil. Et donc il va écrire ses œuvres d'exil qu'on appelle les pontiques, puisque la mer Noire à cette époque-là s'appelle le pont Euxin, des œuvres écrites sur le pont, c'est-à-dire en mer Noire, sur le bord de la mer Noire, et surtout les Tristes, Tristia, qui est un recueil qui va inspirer à peu près tous les grands poètes de l'exil, de la tristesse, jusqu'au banni du goulag, jusqu'à Mandelstam, une des victimes du stalinisme et du goulag, et qui intitule ses recueils de mémoires de déportation Tristia, les Tristes. Donc voilà une vie très étrange, et il meurt en 17 après Jésus-Christ, une soixantaine d'années, complètement oublié de tout le monde, après Auguste, puisque Auguste est mort 4 ans plus tôt, nullement pardonné par le successeur d'Auguste, Tibère, d'une manière presque misérable. Donc une vie incroyable. Vous disiez, il faut le replacer dans le temps, c'est une vie incroyable. Un jeune jouisseur, un homme qui essaie d'écrire subitement des choses sérieuses et qui y réussit dans une certaine mesure, et puis un banni absolu qui invente les récits de l'exil et de la solitude.
Oui, c'est une vie qui pourrait presque être faire l'objet d'un film tant romanesque et cinématographique. Toutefois, vous avez bien décrit, donc, bien entendu, le premier personnage, c'est celui qui est le plus connu. Si vous le voulez bien, je voudrais qu'on aborde donc celui de sa seconde partie de vie, où il cherche des accommodements, mais on pourrait croire que c'est de la flagornerie. Il y en a parfois chez lui, mais semble-t-il, c'est une des règles de l'époque de flatter les puissants. Toutefois, cette œuvre-là reste subversive et originale. C'est-à-dire qu'on peut à la fois décrire les fastes, et donc le calendrier religieux romain et public, et aussi les mythes romains, et en même temps y apporter une touche toute personnelle. Pouvez-vous nous expliquer cela ?
Vous avez parfaitement raison d'insister sur cet aspect qui a toujours étonné les critiques ovidiens et qui ont fait que parfois ils n'ont pas su le prendre très au sérieux. C'est-à-dire qu'il y a toujours chez lui, par exemple prenant les fastes, a priori c'est un projet sérieux. Il s'agit de décrire les fêtes religieuses romaines. Rien de plus important que la religion romaine, qui est une sorte d'organisation politique publique qui quadrille la totalité de l'année. Ce n'est pas du tout la religion que nous connaissons, la religion intime, où on va prier seul avec une divinité qui vous parle c'était une présence intime. Pas du tout. Ce sont des rites officiels publics. Il décrit ces rites-là, très nombreux. Et il cherche à comprendre d'où ils viennent. D'où ça vient? Pourquoi on fait tel sacrifice? Pourquoi on s'habille de telle manière? Pourquoi on se dénude à tel endroit? Pourquoi on se donne des coups de fouet à tel autre? Pourquoi on pousse tel cri? Pourquoi on fait tel geste? Pourquoi on va sur les tombes? Voilà. Il essaie de comprendre d'où viennent les rites, très énigmatiques d'ailleurs, très souvent des rites romains. Une œuvre très sérieuse. Et quand vous lisez les fastes en même temps, sans arrêt, il y a une sorte d'ironie, de plaisanterie, de mise en abîme de tout cela dans un ensemble beaucoup plus narratif et amusant, d'une sorte de folklore. Par exemple, il décrit une sorte de vaudeville mythologique, une nymphe qui s'appelle Lara, qui va dénoncer à Héra que Jupiter est en train de coucher avec une autre. Enfin, il y a le personnage qui vient de parler, ce sont des dieux qui interviennent, il les interpelle, il dit « Eh, au fait, Janus, viens un peu ici m'expliquer ce qui se passe. » On voit Janus qui arrive, qui dit « Qu'est-ce que tu veux, Ovide ?» Alors, il commence à lui parler. Donc, il y a...
Une forme très moderne aussi.
Alors, mais évidemment, c'est ce que j'allais dire, vous avez mille fois raison. C'est extraordinairement moderne que de cette espèce de mélange à la fois de profonde science des choses et de narrativité ironique, de la mise à distance du narrateur par rapport à ce qu'il raconte, ce qui est d'ailleurs le propre des grands conteurs, d'ailleurs, hein, les grands conteurs du XIXe siècle. L'une des marques du conte, c'est la distance qu'il y a entre le narrateur et l'événement raconté, ce qui est une définition d'ailleurs aussi du fantastique. Et donc, Les fastes laissent les gens un peu impressionnés, à la fois formidablement intéressés par les rites qu'il décrit et dont il raconte l'étiologie, les sources, les causes, et en même temps un peu surpris de cette manière de plaisanter, de décrire avec bonhomie et bienveillance les comportements des gens. Par exemple, les fêtes qui sont consacrées à la mémoire des morts, les Feralia, par exemple, ou la fête d'Anna Perenna, qui sont des fêtes qui ressemblent un peu à nos fêtes de Toussaint. Elles se transforment rapidement en beuverie, les gens sont sur les tombes, ils repartent, ils sont à moitié sous, alors on les voit quitter les cimetières en titubant. Donc il y a toujours une sorte de bienveillance face au bonheur de vivre, même lorsqu'on décrit des choses qui ont un caractère très sérieux. Et cette ambiguïté d'Ovide, cet humour, au fond, constant, affleurant, a laissé beaucoup de critiques déconcertées. Qu'est-ce qu'il faut dire de ça? C'est sérieux ou c'est un rigolo, Ovide? C'est quoi? Et moi, je pense, comme vous l'avez dit avant moi, et je vous félicite de le dire, je pense au contraire, c'est une conception narrative extrêmement moderne. D'ailleurs, c'est la seule façon de le rendre possible. Qui lirait des fastes aujourd'hui si c'était simplement un catalogue d'événements froidement décrits? Et ça inscrit la littérature dans la réalité du vécu, dans une sorte de réalité vécue, qui lui donne ce caractère, je disais bienveillant en tous les cas, ce caractère très attachant des œuvres d'Ovide. C'est vrai aussi pour les Métamorphoses d'ailleurs.
Et alors justement, venons-en, car le même procédé est utilisé, il se met en scène réalisant son enquête, parce que finalement c'est cela, et du coup, loin de mettre à distance tous ces dieux, il les convoque parmi ses contemporains.
Voilà. Et alors d'ailleurs, du coup, ça lui a aussi attiré des ennuis, parce qu'on avait envie de chercher des clés. On disait, est-ce que cette manière de faire venir des dieux ou des personnalités ou des figures mythologiques, pas toujours très convenable, et de se mettre à parler avec eux d'actualité, est-ce que ce n'est pas une manière? Est-ce que derrière tel personnage, il n'y a pas tel autre, n'est-ce pas? Bon. Par exemple, on est très étonné que plusieurs fois, dans les Métamorphoses, Ovide parle de Jupiter en l'assimilant à Auguste, plus ou moins, et en même temps, il décrit Jupiter comme une espèce de violeur compulsif, de coureur de jupons permanent, de personnage qui est toujours en train d'essayer de cacher à sa femme ses diverses turpitudes. Bref, donc il y a les dieux dans la Métamorphose, les dieux tels que les montre Ovide, sont injustes, cruels, profiteurs, peu travailleurs, abuseurs de toute nature. Ils sont très antipathiques, au fond, ce sont des hommes empires, ils sont terriblement humains, si je puis dire. Et donc on peut se dire, cette manière de décrire les dieux après avoir dit que Jupiter était un dieu sur Terre, est-ce que ça, il ne faut pas relier les deux phrases, et est-ce que ce n'est pas aussi un peu dangereux de dire ça? On ne sait pas trop, hein, peut-être que ce que je dis là n'est pas vrai. Mais en tout cas, il y a toujours ce flottement du sérieux et de la dérision qui, sans aucun doute, joue un rôle dans la difficulté d'interpréter Ovide d'une manière unique, d'une manière univoque.
Oui, d'autant que c'est une œuvre, vous l'avez dit, extrêmement foisonnante. D'une part, gigantesque, plus de 12 000 vers, si je ne me trompe pas.
Oui, 12 000 vers.
12 000 vers, foisonnante aussi par l'ensemble des points de vue qu'il utilise pour traiter un même sujet parfois.
Absolument.
Il y a des chants, des contre-chants, il revient sur ce qu'il a déjà abordé. Du coup, rechercher des correspondances, c'est tout à fait légitime pour les contemporains, parce que dans une œuvre foisonnante, il ne peut y avoir que des correspondances, et ça fait partie de son art, mais il y a d'autres types de correspondances, beaucoup plus profondes que vous nous expliquez, des correspondances entre le monde d'ici-bas et l'au-delà, des correspondances entre le passé et le monde présent, voire l'avenir, qui a une part un peu divinatrice aussi. Est-ce que vous pouvez nous développer ces jeux, finalement, beaucoup plus subtils qu'ils n'y paraissent?
Oui, alors il y a deux aspects dans ce que vous dites. Le premier, qui est que l'une des difficultés principales qui s'offre à Ovide lorsqu'il décrit des métamorphoses, c'est de dire « je vais faire 400 récits de métamorphoses », il faut quand même varier les plaisirs. Et donc ça peut devenir un catalogue atrocement ennuyeux. Et donc tout son effort de créateur, c'est de faire des transitions, des points de vue, et, comme vous l'avez dit plusieurs fois, de reprendre tel ou tel thème sous plusieurs aspects. Donc il y a un système prismatique, un peu cubiste parfois, dans ses récits, qu'il a encore une fois, et qu'il a inventé au fond, hein, qui est extrêmement moderne. Mais plus profondément, cette façon de faire ressurgir, de faire apparaître tel ou tel mythe à telle ou telle occasion, nous rappelle l'intrication permanente du monde des vivants et du monde spirituel, auquel... Je ne sais pas s'il il croit, mais en tout cas, auquel il est attaché, en tout cas. Je ne sais pas si c'est l'ordre de la foi, je ne sais pas ce qu'il faut en dire, au fond. Est-ce que les Romains croyaient à leur mythe? C'est une question qu'a posée Paul Venn. C'est difficile de savoir. Mais en tout cas, ce qui apparaît, du coup, c'est, en effet, alors des morts qui réapparaissent et qui vous expliquent ce qui s'est passé ou ce qui se passera, des personnages qui, métamorphosés en arbres ou en sources ou en diverses formes animales, finissent par communiquer, vous expliquer ce qu'ils ont été, ce qu'ils auraient pu devenir et pourquoi ils sont devenus cela. Le fait qu'on se promène dans une forêt, on veut couper une plante ou on arrache une branche, elle se met à saigner parce qu'en fait on a complètement oublié que la sève c'est le sang de quelqu'un de métamorphosé. Donc on est tout le temps dans une sorte de monde où la frontière entre le réel et le surnaturel est fragile, et où, au fond, les échanges entre les deux mondes sont permanents, puisque précisément, rien n'est fixe. La métamorphose, par définition, c'est une mutabilité permanente, le monde est en mouvement permanent, c'est une pensée du transitoire qui est exprimée ici, donc des échanges, donc de l'éphémère, et cette vision est évidemment peu rationaliste au fond, elle est le contraire d'un esprit de rationaliste pur qui décrirait le monde de manière froide. Il y a une sorte de mobilité permanente. Alors on peut dire que ça va avec le projet des métamorphoses, parce que dans les métamorphoses qui est en jeu, comme dans les livres érotiques qu'il écrivait dans sa jeunesse, ce qui est en jeu, c'est le désir. Généralement, si quelqu'un se métamorphose, ou si c'est qu'il lui est arrivé quelque chose, et ce quelque chose, c'est qu'il a subi le désir ou il a désiré autrui, généralement. C'est souvent des histoires d'amour. Voilà, c'est Daphné qui court parce que le dieu lui court après pour abuser d'elle, et qui, pour échapper à ce désir, devient un laurier. Bon. Donc, c'est une affaire, on peut dire que c'est une affaire de désir, mais c'est aussi une affaire d'échange entre des mondes que l'on croirait séparés. Moi, je suis très sensible à cet aspect de son œuvre, qu'on voit dans les métamorphoses, évidemment, dans les fastes, puisque précisément dans les fastes, c'est des dieux qui viennent expliquer aux gens ce qui s'est passé, etc. Bon, donc cette espèce d'agora mêlant les hommes et les dieux, c'est le sujet des fastes. Mais je suis très sensible à cet aspect parce que ça va l'aider ensuite à constituer, si je puis dire, une doctrine, en tous les cas, un mode de pensée dans ses œuvres d'exil. Comme il a cru que des échanges étaient possibles entre le monde surnaturel et le monde réel, comme il a cru que la condition humaine ne s'arrêtait pas à l'humain, il perçoit dans son œuvre d'exil des élans, des sensations, des intuitions qui relèvent du religieux et qui, alors là, relèvent du religieux au sens où nous entendons aujourd'hui. Plus du tout le catalogue des fêtes publiques. Mais le sentiment intérieur d'un appel à autre chose, à un dépassement, à une méditation sur le destin, sur la mort, sur l'âme, qui a beaucoup fasciné les chrétiens, les premiers chrétiens, et qui a fait qu'au XIIIe siècle, on a cherché dans Ovide, comme on avait fait dans Virgile d'ailleurs, on a cherché dans Ovide une prémonition du Christ, au point même d'ailleurs qu'un romancier célèbre, Ventilaria, avait écrit un livre qui a eu le prix dans Goncourt, d'ailleurs juste après la guerre, qui s'appelait « Dieu est né en exil », où il disait, c'est du roman, mais enfin il le disait quand même, il est arrivé à le penser, qui rejoint ce que nous disons maintenant, où il disait qu'Ovide, en exil, aurait découvert les prémices du message du Christ, et que Dieu, le Christ, survenait en exil, l'exil d'Ovide.
De fait, il y a quelques passages troublants.
Ah oui, c'est vrai, c'est vrai.
La Genèse.
Oui, absolument.
Voilà, et d'autres passages où on touche peut-être pas à quelque chose comme le monothéisme, en tout cas un animisme tellement dilaté à l'échelle du monde qu'il en devient universel et beaucoup moins situé comme les dieux de la Restauration augustéenne.
D'ailleurs, oui, bien sûr.
En lisant votre ouvrage, on se dit que finalement, son exil au moment des métamorphoses peut s'expliquer. Car après tout, des badinages, des manuels de drague, ça peut se pardonner, ça ne remet pas l'ordre social totalement par terre. En revanche, réinterpréter les mythes, sur lesquels, devant servir de fondation à un ordre, en faire quelque chose de perpétuellement mouvant, en devenir en voué à la métamorphose et immaîtrisable donc, ça, c'est dangereux.
Oui, vous avez raison. C'est ce que dit beaucoup la critique contemporaine. C'est une approche de la pensée sur Ovide des 30 ou 40 dernières années qui consiste à voir dans l'écriture d'Ovide, et notamment dans les métamorphoses, une forme de subversion par rapport à l'ordre apollinien que veut promouvoir Auguste. Un ordre normé, avec des dieux clairement identifiés, qui ont leur histoire dans des temples que l'on a restaurés à l'identique, en valorisant les dieux de la Concorde, en reprenant les grandes figures mythologiques Mars et Vénus, et tout ça sous le grand signe d'Apollon, l'homme de l'ordre, si je puis dire. Alors que Ovide, c'est tout l'inverse. C'est la subversion permanente, c'est le désordre, c'est la confusion des gens, c'est les dieux pervers, c'est des mutations, ce sont des échanges entre les dieux et les hommes, c'est une pagaille indescriptible, somme toute, en tous les cas c'est une très grande confusion, qui est tout sauf augustéen, ça c'est clair. Et donc la critique de ces 30 dernières années s'est beaucoup attachée à voir, non moins dans les œuvres érotiques, parce que comme vous dites, bon, les galipettes, bon, mais dans la vision du monde que propose Ovide, une agression, une subversion par rapport à l'ordre politique, intellectuel, moral et religieux que veut imposer Auguste.
Alors, éloignons-nous un tout petit moment de la critique actuelle, non pas pour la contredire, mais pour apporter une inflexion. Est-ce que Ovide, qui se trouve finalement à la frontière entre le monde païen et le monde chrétien, est dans une période où, vous l'avez dit, nous ne savons pas finalement si les Romains croyaient encore à leur dieu, à leur rite, à leur mythe, est-ce que ce n'est pas plutôt une tentative de résolution de cette crise spirituelle profonde que traverse à l'époque l'Empire ? C'est-à-dire que la restauration augustéenne, ça peut être vu comme quelque chose, après tout, de positif, une sorte de restauration, mais un peu de façade.
Oui.
Tandis que, de son côté, Ovide ne peut probablement pas être réduit à une pure subversion et au jeu de destruction. Au contraire, comme une autre façon de restaurer et de rendre acceptable et vivant ce substrat qu'il recueille, malgré tout.
Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je considère que le Ovide représente le vacillement des intellectuels et des artistes au moment du passage d'un millénaire à l'autre, au passage du monde avant Jésus-Christ à celui d'après. Quel est ce vacillement? La religion romaine, elle est extrêmement précise. Elle a un nombre de dieux, de rites, d'événements, de dates, d'anecdotes. Elle est très très fixe. Mais elle ne parle pas au cœur. Ce sont des manifestations publiques où il faut scrupuleusement répéter des gestes, des obligations, des contraintes auxquelles plus personne ne comprenait rien, avec un catalogue de superstitions incroyable. Il n'y a pas plus superstitieux que les Romains. Donc, on assiste à ces scènes. Et parfois, même si le prêtre se trompe dans tel ou tel rite, il faut tout recommencer. Enfin, donc, c'est une religion très lourde, très présente. Beaucoup de fêtes à Rome, beaucoup de fêtes. Mais au fond, c'est pas ça le religieux. Et ce que cherche évidemment la génération d'Ovide, en tous les cas, ce que cherchent sans doute les esprits à la fin du millénaire qui précède la naissance du Christ, c'est une présence divine plus forte que ça. Et donc, ça explique le développement des religions à mystère, qui est très important à Rome. Le culte de Mithra, le culte d'Isis, je l'ai dit, très important. Des cercles philosophico-religieux où on essayait de dans des communautés plus ou moins secrètes, on essayait de faire apparaître des dieux qui parlaient. Enfin, une volonté de trouver un dieu qui parle au cœur. Et qui soit plus intime, plus personnel. On a même dit que c'était peut-être l'une des sources des ennuis d'Ovide, puisqu'il était très lié, semble-t-il, en tous les cas, c'est ce qu'ont dit Théodore Reynac et Jérôme Carcopino, il était très lié au cercle dit néo-pythagoricien, c'était des cercles qui se réunissaient pour parler de la métamorphose, de la métempsychose surtout, du fait que l'âme ne mourait pas, qu'elle passait d'un corps dans un autre, que la divinité était là, qu'il fallait vivre purement pour... Un peu du bouddhisme. D'ailleurs, Pythagore et Bouddha, d'ailleurs, ils sont parfaitement contemporains. Et ce qu'on appelle le néo-pythagorisme romain. Donc, il y a ce sentiment que la religion officielle, elle est là, mais c'est de l'officiel, c'est du rite. Et que la religion privée, elle n'est pas là et qu'il faut la trouver. Et Ovide la cherche.
Et Pythagore est présent dans les Métamorphoses.
Alors, évidemment, Pythagore réapparaît, puisque le dernier livre des Métamorphoses fait apparaître... d'une manière tout à fait incroyable, puisqu'en fait, il vient parler au roi Numa. Bon, enfin, c'est un mélange un peu bizarre de chronologie, peu importe. Et Pythagore dit, écoutez, oui, les métamorphoses, ben, c'est normal, parce que l'esprit ne meurt jamais, l'âme ne meurt pas, elle passe d'un corps à un autre, d'un état à l'autre, la vie est une gigantesque mutation permanente d'une seule et même forme d'âme immortelle, nous y voilà, d'immortalité qui s'incarne d'un être à l'autre, ou d'une forme à l'autre. Si vous avez été méchant, vous serez pierre ou lion. Si vous avez été bon, vous serez peut-être arbre ou oiseau. Et plus encore, et c'est là que ça nous intéresse, si vous avez été exceptionnel, vous serez peut-être transformé en astre, vous irez au ciel. Et donc, ce qu'on appelle l'apothéose, ou le catastérisme, la transformation en astre, et la dernière grande scène des métamorphoses, c'est la description de l'immortalisation de César, et bientôt d'Auguste, de la famille de César et de ses descendants, qui deviennent des astres immortels, et à qui on va vouer un culte comme aux dieux précédents. Donc, on comprend pourquoi le christianisme premier a vu dans tout ça des... Parce qu'au fond, ce sont les élus qui vont au ciel. Et donc, la religion romaine décrite par Ovide, petit à petit, se transforme en une réflexion sur le sentiment religieux privé, intime, personnel, et sur cette idée que les êtres d'exception, les purs, seront immortels. Donc, on comprend que cette évolution ait pu fasciner les premiers chrétiens et était tellement utilisée par les pères de l'Église.
Oui, car dans un chapitre consacré à la postérité d'Ovide, vous montrez qu'elle était constante.
Elle était constante, c'est incroyable. Ovide a été, sans aucun doute, beaucoup plus que tous les autres poètes latins, même que Virgile. Le succès d'Ovide a été considérable parce que les Métamorphoses est un catalogue sans fin, un réservoir sans fin de figures mythologiques qui a pu inspirer la peinture, la musique, la sculpture, mais aussi... nous venons de le dire, parce qu'il y a une herméneutique possible, il y a une recherche d'interprétation possible de ces textes en fonction des moments de l'histoire. On peut essayer de chercher. Alors, on l'avait fait un petit peu avec Virgile, notamment avec une des bucoliques qui décrivait l'idée qu'un enfant allait naître, qui allait changer le monde. Bon, c'est une interprétation tout à fait fantaisiste, mais peu importe. On avait cherché avec Ovide. Il y a eu un âge ovidien où on a vu... il y a eu un âge virgilien où on a vu Virgile comme une prémonition du Christ. D'ailleurs, dans toutes les églises, on voit souvent la Sibylle, y compris d'ailleurs dans la chapelle Sixtine, on voit la Sibylle qui est décrite par Virgile, et on voit Virgile lui-même souvent parmi les prophètes du Christ. Mais il y a aussi un âge ovidien où on a trouvé que ça marchait encore mieux avec Ovide qu'avec Virgile, si je puis dire. Et donc,
ce qui, prime abord, semblait moins évident. Hein,
alors que ça va moins de soi. Mais voilà. Et donc, cette idée, au fond, qu'il y avait dans ces deux grands poètes païens des prémices de la pensée chrétienne a beaucoup survécu. Je ne dis pas que je le crois, hein, je ne suis pas certain que tout ceci ait beaucoup de sens. Enfin, c'est en tous les cas comme ça que les choses ont été perçues.
Il y avait peut-être un esprit du temps.
Oui, un esprit du temps, et puis ça montre surtout ce que je crois beaucoup des écrivains latins et des poètes latins, l'incroyable ressource qu'ils contiennent en termes d'imaginaire et de pensée. Ce qui m'intéresse, moi, chez les poètes latins, enfin les grands en tous les cas, chez Virgile ou chez Ovide, c'est que ça donne évidemment à rêver, c'est un imaginaire formidable, mais ça donne aussi à penser des choses simples, l'attention aux uns, aux vivants, aux personnes, aux plus fragiles de nous, mais aussi à penser, c'est quoi la place de l'homme dans l'univers, c'est quoi notre destin, où est-ce que nous allons, il y a tout ça.
Oui, alors justement, avec nos yeux d'aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas, j'allais dire, un risque, mais je m'avance,
c'est-à-dire
une interprétation des métamorphoses comme annonçant une pensée que je pourrais caractériser d'un mot qui n'est pas méchant, écolo-animiste en quelque sorte, effaçant les frontières entre l'homme et la nature, rompant définitivement avec la singularité humaine. Enfin, en gros, à quelque chose qui ressemblerait à un post-humanisme.
En tous les cas, il y a certainement une sensibilité qu'on pourrait appeler d'écologique, puisque l'idée que l'on voit chez Ovide, et qu'on trouvait déjà aussi d'ailleurs un peu chez Virgile, mais qu'on voit beaucoup chez Ovide, c'est que attenter à la nature, c'est attenter à un grand tout dont nous faisons partie. Donc, il est inutile d'aller chercher des histoires à des animaux, à des plantes, à des bois, à des sources, etc., parce que ça va nous revenir dans la figure. L'idée, c'est qu'il y a une unité. Hein. Et lorsque Virgile décrit l'arrivée d'Énée dans le Latium, où il va créer Rome, il dit tout de suite, oh, je ne sais pas quel dieu habite là, mais il y a un dieu, c'est sûr. Et cette impression qu'il y a tout le temps, que tout est habité. Alors, on le trouve beaucoup, on trouvera ça dans une grande influence sur la poésie du XVIe siècle, sur Ronsard. On connaît tous au Dieu, que véritable est la philosophie, qui dit que toute chose en changeant périra, ou les fameuses histoires des bûcherons de la forêt de Gâtine. Écoute, bûcheron, arrête un peu de bras, ce ne sont pas des bois que tu jettes à bas, ne vois-tu pas le sang, lequel dégoûte à force des nymphes qui vivaient dessous la rue des Corses. Donc, il y a eu tout ce sentiment... que écologique, donc je ne sais pas comment il faut l'appeler, hein, moi je ne suis pas particulièrement écolo, mais enfin bon, écologique, selon laquelle il faut faire attention quand même quand on touche à la nature ou à ce grand tout du monde, parce qu'on touche à une partie de nous-mêmes. Mais, vous avez raison, là encore, il ne faut pas que ce sentiment universaliste, cette espèce de confusion d'une seule force naturelle qui unirait toutes les formes de vie, fasse oublier la singularité humaine. Un pangolin ou une chauve-souris, c'est pas la même chose qu'un homme. Voilà, pour parler d'actualité. Et donc, il ne faut sans doute pas l'oublier. Mais Ovide ne l'oublie pas non plus, puisque à la fin des Métamorphoses, ce ne sont pas, c'est pas n'importe quoi ni n'importe quelle chose qui devient catastériste, qui devient dieu ou étoile. C'est uniquement les grands élus, c'est les héros humains qui ont changé le monde.
Donc la singularité humaine est donc, merci,
il faut la défendre.
De le dire noir sur blanc, préservé par Ovid. Est-ce qu'il... Autre chose extrêmement fascinante dans ce dialogue avec Ovid à 20 siècles de distance, c'est que lui visait la postérité, mais nous, de notre côté, ce qu'il nous offre, c'est en quelque sorte l'antériorité.
Oui.
Il nous offre une profondeur que nous n'aurions pas sans nous plonger dans ces textes.
En tous les cas, Ovid a... Alors, tous les poètes latins disaient ça, qu'ils étaient des chantres, qu'ils étaient nouveaux Orphées, que la poésie permettait de vaincre la mort. Enfin, l'orphisme, ça fait partie de la mythologie du poète latin. D'ailleurs, il y a deux mots en latin pour dire poète. Il y a poeta, celui qui fait le faiseur, le poiei, dans le grec, je fais, et il y a vates, le vates, celui qui vaticine, le devin. On est poète, on est devin, on est les deux quand on est poète. Donc ce n'est pas très original de dire que je suis un révélateur, attention, je vais annoncer des choses très importantes. Tous les poètes disent ça, Horace, Tibulle, Virgile, Ovide le disent. Mais, ce qu'il y ait plus intéressant dans la métamorphose, c'est que tout est destiné. Toute la grande structure des métamorphoses, les 12 000 vers, sont destinées à arriver, comme une espèce de grand fleuve, sont destinées à arriver à cette figure finale. Au fond, la figure finale, c'est celle du poète qui peut dire ce qu'est le destin des élus, qui peut dire la certitude qu'il y a une immortalité, et qu'il se l'attribue à lui-même à la fin. Puisque le dernier mot, en effet, c'est « je vivrai ». Et donc, il y a comme une sorte de leçon de l'histoire qui irait jusqu'à dire le destin surhumain des élus. Alors, si on voulait à tout prix faire du modernisme, même si ça va paraître complètement absurde à ceux qui nous écoutent, je m'en excuse auprès de nos auditeurs, on serait plutôt dans une vision théilhardienne du monde. C'est-à-dire l'idée qu'il y a une sorte de... à partir du plus proto-historique, se décide une longue histoire de la montée de ce que Teilhard sort d'appeler la holosphère, c'est-à-dire la réalisation parfaite de l'esprit. Alors, je m'en excuse pour ceux qui nous écoutent, ce que je viens de dire est évidemment un anachronisme, une absurdité, mais c'est pour faire comprendre ce que je sens dans les métamorphoses. Il y a cette idée que l'histoire des hommes marche vers la lumière, vous voyez ce que je veux dire, en quelque sorte. Et je trouve ça, en effet, à la fois formidablement prophétique et, je l'espère, formidablement juste.
Écoutez, c'est ce qu'il dit et cela nous touche. Mais il y a toutefois autre chose qui nous touche, c'est que tous ces personnages, ces contemporains lui-même, nous semblent extrêmement proches. Si bien qu'il y a un paradoxe, c'est que cet homme qui nous parle de devenir perpétuel de l'humanité nous montre ses contemporains d'il y a 20 siècles et on a l'impression de converser avec nos voisins et c'est extrêmement émouvant. Ouais. Et c'est souvent comme ça avec l'Antiquité, si lointain et si proche.
C'est vrai. Et alors, c'est peut-être plus vrai chez lui que chez tous les autres, parce qu'il y a une sorte de sympathie naturelle vis-à-vis des gens, et surtout dans les œuvres de jeunesse, dans les œuvres dites érotiques, l'art d'aimer, les remèdes à l'amour, etc. Ce sont des scénettes. On va au spectacle, on va au théâtre, on va sur le marché, on va acheter des perruques on voit passer des femmes légères, des prostituées qu'on reconnaît à leur toge safran et à leurs grands cheveux roux. On est dans le pittoresque, en fait, d'une vie quotidienne à Rome. Il y a pas beaucoup de... Et avec sympathie, parce qu'il y a d'autres gens qui font du pittoresque. Le Juvénal décrit, mais avec une grande méchanceté, il est amer, il est toujours en train de dire du mal de tout le monde. C'est pas du tout le sentiment qu'il y a chez Ovid. Le bonheur d'être au monde est très fort chez lui. Et il y a du pittoresque. Et même dans les métamorphoses et dans les fastes, comme nous l'avons dit, on rencontre des gens.
Et même des dieux.
Et des gens et des dieux très sympathiques, qui sont d'ailleurs semblables. Des gamins qui courent, qui jouent à cache-cache, des parents qui discutent entre eux, des gens qui boivent un peu trop, des petites fêtes domestiques, des événements tristes aussi. On décrit des deuils, des peines. On voit des gens vivre, on voit des gens vraiment dans le vécu. Et Et je suis certain que Ovid souhaitait cela, souhaitait incarner dans une société une pensée que je crois très élevée, beaucoup plus riche que ce qu'on a pu en dire pendant très longtemps. Je pense qu'Ovid était un véritable intellectuel, un compilateur sans doute, mais un érudit, mais, et un grand poète, un grand artiste. Son latin d'ailleurs est un latin très original pour son époque, mais c'est surtout quelqu'un qui avait un amour de la vie et des vivants et des autres au fond, ce qui n'est pas si fréquent dans les grands poètes de l'Antiquité.
Écoutez, monsieur, je vous remercie beaucoup, car que grâce à vous, nous avons, je crois, atteint notre objectif, rendre son ampleur à Ovid, et pourtant sans impressionner l'auditeur, c'est-à-dire que tout auditeur qui aurait été inquiet de se plonger non pas seulement dans l'art d'aimer, mais dans les métamorphoses, va certainement perdre ses réticences et ses inquiétudes après notre émission. C'est du moins ce que nous souhaitons, qu'il se plonge d'abord dans votre livre, Ovid, désirer, renaître, survivre, par Xavier Darcos, donc, aux éditions Fayard, mais ensuite qu'il enchaîne sur les métamorphoses ou les fastes. Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie. Thank you.